Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Jean-Daniel Mathé.
Il est psychiatre, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et président de l'Eurofédération de psychanalyse. Avec lui, c'est une deuxième étape dans cette semaine entièrement imaginée autour du mot répétition. Aujourd'hui, nous discutons donc de la notion de répétition au cœur de la théorie et de la pratique analytique. Ça recommence.
Tout se dégrade par la répétition. La répétition, c'est la vie. Et c'est la dégradation de la vie. Toujours se lever, toujours se coucher, chaque jour se nourrir. Comment voulez-vous que ça tourne bien comme ça ?
Moment, mais tout le temps en fait, des artistes travaillent à leur art. Ils répètent le concert que vous allez entendre, ils répètent les pas de danse que vous verrez sur scène, ils répètent un geste avant de l'éprouver devant vous, ils répètent leur texte pour l'avoir bien en eux et pouvoir le transmettre, ils répètent cette acrobatie pour ne pas se faire mal. La répétition est le lieu de la recherche, de la mise en place, de la complexité, c'est le lieu de l'échec et du temps, c'est le lieu de l'invisible, de la matière première, du questionnement, c'est donc le lieu du sens. Le statut d'intermittent du spectacle en France permet, entre autres, même si certains peinent même à l'intérieur de ce système, aux artistes de répéter. Voilà, c'était juste pour le souvenir. Il est 16h, passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, le Polaroid du jour fait apparaître une maison de soleil. Vers 16h20, entretien. Deuxième moment d'une semaine entièrement pensée autour du thème répétition. Hier, nous discutions de la notion de répétition en histoire, en historiographie, et de la façon dont chaque époque articule passé, présent, futur. Aujourd'hui, nous discutons de la notion de répétition dans différents moments de la théorie psychanalytique chez Freud, et Lacan principalement, et de la place de cette même répétition dans la cure analytique. Vers 16h50, nous écoutons un poème de Valérie Rouzeau, et enfin à 17h, nous retrouvons les équipes du 5 à 7. En attendant, c'est le comédien Yves-Noël Genot qui déballe ses rayons littéraires pour vous cette semaine. Il choisit aujourd'hui un extrait de l'Ecclésiaste. On l'écoute.
Propos du Coëlète, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, disait le Coëlète, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme après toute la peine qu'il se donne ici-bas ? Une génération s'en va, une génération s'en vient, mais le monde ne change pas. Le soleil se lève, le soleil se couche. Après quoi, il se hâte vers l'horizon pour s'y lever encore. Le vent part vers le sud, puis revient vers le nord, et va se retournant sans cesse. Mais après, il reprend ses sautes. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'en est point remplie. Pourtant les fleuves ne continuent pas moins d'y couler sans arrêt. Tous les discours sont fatigants, mais l'on n'arrive pas à tout dire. L'œil n'en a jamais assez de voir. L'oreille n'est jamais pleine d'entendre. Et ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui s'est fait se fera de rechef. Rien de nouveau sous le soleil. Quand on dit d'une chose « tiens, voilà du nouveau », elle était pourtant déjà arrivée dans tous les siècles qui nous ont précédés. Mais on ne garde pas mémoire des anciens temps. D'ailleurs, de l'avenir lui-même, ceux qui viendront après ne se souviendront pas non plus. Moi, le Coëlète, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem et je me suis livré par le moyen de la sagesse à l'étude et à l'examen de tout ce qui se passe sous le ciel. Une occupation détestable à quoi Dieu laisse les hommes se vouer. J'ai contemplé toutes les actions qui s'exécutent sous le soleil, toute son vanité et poursuite du vent. On ne peut pas redresser le tordu, on ne peut pas évaluer le manque. Et j'en ai conclu, à part moi, Voici donc que j'ai dépassé en sagesse tous ceux qui m'ont précédé à la tête de Jérusalem. Voici donc que mon cœur a connu beaucoup de sagesse et de science, et que j'ai astreint mon esprit à l'examen de la sagesse et de la science, de la folie et de la sottise. Et maintenant je m'aperçois que cela aussi est poursuite devant. Car plus on a de sagesse, plus on a de chagrin, et qui augmente son savoir ajoute à sa souffrance. Alors je me suis dit, allons, je vais t'essayer dans la joie, goûte donc au plaisir. Cela aussi était vanité. Et j'ai dit au rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? J'avais imaginé d'habituer ma chair au vin, sans que mon cœur cessât pourtant d'exercer la sagesse, et de poursuivre la folie jusqu'à ce que je visse quel est pour les enfants des hommes le bonheur à chercher tous les jours de leur vie sous le ciel. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute occupation ici-bas, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qu'on avait planté, un temps pour tuer et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour s'endeuiller et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour repousser les baisers, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la bataille et un temps pour la paix.
C'est l'Ecclésiaste dont vous lisez un extrait, Yves-Noël Genot. Vous vouliez terminer sur cet extrait où il est question d'un moment pour tout, où il est question d'un moment pour chercher, d'un moment pour autre chose. Comment vous le lisez, ce texte ?
Je le lis avec beaucoup de... Je suis un peu impressionné par ce texte, c'est très émouvant. C'est un des textes les plus émouvants qui soit. Bon, je devrais lire plus la Bible, cela dit. La Genèse aussi, c'est très émouvant. Il y a plein d'autres choses aussi. Mais celui-là, il est vraiment bouleversant parce qu'il est parvenu parfois un peu transformé, etc. Parce qu'il a été retouché probablement, mais néanmoins, enfin, tel que là... Cette version que je lis, là, qui est une version d'historien, on sent quelqu'un, c'est ça qui est dingue, on sent quelqu'un qui est là, qui écrit ça. Bouleversant. Hein.
Il est aussi dit dans ce texte, moi j'ai relevé l'idée selon laquelle en augmentant son savoir, on augmente son chagrin.
C'est-à-dire que tout peut être dit dans tous les sens, c'est ce qui est un peu ça qu'il dit aussi. Hein. Le problème de la connaissance, c'est le péché originel. Donc, c'est aussi dans la Genèse. Et en ce moment, je lis un peu Cioran, Émile Cioran, et il n'en sort pas de ça. C'est-à-dire qu'il pense en effet que c'est foutu depuis le début, parce qu'à partir du moment où l'homme a voulu, je ne sais pas quoi, enfin comment ça s'est produit, mais en savoir plus que les autres, accéder, comme c'est dit, c'est une image, mais que Cioran trouve très juste, enfin qu'il ne comprend pas comment on peut... penser autrement que cet aspect de la faute originelle qui est l'idée de la connaissance, de vouloir connaître. Alors du coup, l'homme est entraîné dans en effet une espèce de cycle sans fin, et puis de perte aussi sans fin, c'est ce qui est dit dans l'Ecclésiaste. C'est-à-dire que évidemment toute connaissance perd aussi ce qu'est le...
Ou l'éclaire.
Oui,
ou la libère.
Oui, la connaissance éclaire et libère, mais en même temps, elle fait perdre ne serait-ce que l'inconnaissance. Elle fait perdre même l'intuition.
Pas nécessairement.
Pas nécessairement, mais... Enfin, il y a toujours ce truc de nostalgie de l'état animal, quoi.
Quelle musique vous voulez mettre après ça ?
Du Bach.
Thank you.
Demain, Yves Noël Genot poursuit le déballage de sa bibliothèque. Elle nous lira cette fois un extrait des mémoires de Saint-Simon. En attendant, vivons quelques apparitions d'images, c'est le Polaroid. C'est une maison à la Nouvelle-Orléans. Une maison que l'on appelle la maison du soleil. Au tout dernier étage, dans des combles aussi peu aménagés que le jardin sauvage, une femme se tient devant une machine à coudre et reprend une pile de pantalons bleus. Elle est souriante. La maison est vide. Les arbres qui entourent la maison et qui, à cette saison, viennent chatouiller le moindre entrebâillement de fenêtres, frissonnent dans la brise bienheureuse de cet après-midi du mois d'août. Elle chante. Quand un des pantalons est terminé, elle le jette à terre dans un mouvement savant, sec et souple, attrape celui qui se trouve en haut de la pile, le replace dans la machine et s'ensuit un travail similaire mais nouveau. Dans la lumière si chaude, et l'unique bruit d'une nature assommée par l'été, ses gestes sont ceux de la jeune fille qui apprenait à coudre il y a de cela des siècles. Son visage est creusé de rides cruellement claires, mais ses gestes, ses fous, sont tellement neufs, tellement enjoués, qu'à l'évidence, ils transforment la totalité de sa silhouette. C'est une maison, à la Nouvelle-Orléans, une maison remplie de lumière. C'est la maison de la couturière. Il ne faut pas confondre avec l'autre.
Do what I've done.
Pour ce Polaroid, Miss Chanel choisissait de vous faire entendre House of the Rising Sun par Victoire Robert Kampf, une reprise d'une chanson traditionnelle folk assez largement diffusée par l'interprétation qu'en faisait le groupe The Animals en 1964. Reprise ensuite, cette chanson est traduite par beaucoup de gens. Ici, nous avons plusieurs fois reçu Latif Alabissi et dit tout l'intérêt que nous portons à ses recherches et son travail avec Figure Project. Elle programme le festival Extension Sauvage, une rencontre entre la danse et le paysage, une aventure chorégraphique en milieu rural pensée spécifiquement pour un territoire allant de Combourg à Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine. Le programme porté par l'association Figure Project est ouvert à tous et a pour ambition d'être à la fois généreux et innovant. Je n'en doute pas. Exigeant et jubilatoire, je n'en doute pas non plus. Extension Sauvage par Figure Project a lieu cette année le dernier week-end de juin et vous pourrez trouver toutes les informations sur extensionsauvagetoutattaché.com. C'est j'en mêle les pinceaux. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le deuxième moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot répétition. Comme à notre habitude, nous éclairerons ce mot à la lumière de 5 disciplines jusqu'à vendredi. Hier, c'était l'histoire, aujourd'hui, la psychanalyse. Hier, l'historien François Hartog avançait que l'histoire avait toujours été agitée, concerné par la répétition. Ceci s'expliquait pour lui quasiment par une question de langage, de possibilité de formulation. Quand un événement que l'on ne connaît pas advient, le présent, en tant qu'il est forcément nouveau, on cherche pour le nommer une référence, un appui, une ressemblance, une coïncidence dans ce qui a été. Cela nous sert à dire. Alors, si l'histoire ne se répète pas, son écriture questionne la notion de répétition. Il y a des passerelles avec ce dont il sera question aujourd'hui, car la psychanalyse, elle aussi, est agitée, animée, questionnée, concernée par les phénomènes de répétition. On peut dire qu'elle apparaît clairement dans les écrits de Freud en 1914, et Lacan en fait quelques années plus tard l'un de ses 4 concepts fondamentaux, va même jusqu'à considérer la répétition comme preuve de l'inconscient et comme possibilité de son ouverture. On va revenir sur tout ça avec vous, Jean-Daniel Matet. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, président de l'Euro-Fédération de psychanalyse. Bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci de me recevoir.
Quand vous êtes entré dans le studio, vous avez dit tout de même, la répétition pour la psychanalyse, ce n'est pas un petit sujet. Vous n'êtes pas facilité la tâche, certes. En revanche, en quoi peut-on dire que c'est un sujet central ?
Alors, c'est un sujet central. Tout à l'heure, je vous disais, finalement, ça concerne surtout la psychanalyse, pas la psychiatrie. Je crois que c'est excessif, puisqu'effectivement, au niveau des phénomènes, ça concerne bien sûr la psychiatrie qui a observé depuis très longtemps un certain nombre de phénomènes. Je dirais que très, très fréquemment même, cette notion de répétition dans les symptômes est quelque chose qui est mentionné par les patients eux-mêmes. Et il y a des syndromes, comme on dit, ou des ensembles de symptômes qui, effectivement, mettent la répétition au cœur du fonctionnement d'une maladie, comme par exemple la maniaco-dépression, hein, ou
on appelle ça
bipolaire, etc., où des crises se répètent. Mais il y a aussi beaucoup d'autres, dans les maladies psychiques, il y a beaucoup d'autres, effectivement, pathologies où ce qui s'agit, c'est quelque chose qui se répète, hein, dans le symptôme qui affecte, qui fait souffrir, qui sépare du reste des autres humains, qui altère la vie sociale, etc. Mais j'allais dire, les psychiatres en restent à d'une certaine manière l'observation, et quant au traitement, ce qu'ils proposent, c'est de l'ordre de la médecine. Et les psychanalystes, et en particulier Freud et Lacan, ont beaucoup insisté pour, effectivement, eux-mêmes étant médecins, pour nous mettre en garde contre cette fureur, ça n'en dit, du traitement à tout prix de ce qui se répète. Et c'est là où nous entrons dans la problématique plus spécifique de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'elle met au jour à la fois des phénomènes de répétition qui sont de l'ordre inconscient, qui ne sont plus de l'ordre, bien sûr, ils existent aussi, mais qui sont plus seulement de l'ordre des grands symptômes, des symptômes comme la névrose obsessionnelle, les symptômes obsessionnels, ou les symptômes de l'hystérique à travers son corps. Freud a suffisamment décrit ça, la toux de Dora, etc.
C'est-à-dire des choses qui sont visibles, sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord et dont on observe la répétition.
Voilà.
On avance d'un cran quand on va vers des répétitions qui sont un petit peu moins visibles et moins conséquemment observables.
Et donc, la chose se complique quand on postule avec Freud, on le verra, puis Lacan en a fait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, un concept fondamental. La chose se complique quand, effectivement, on postule que, finalement, l'inconscient est fait pour une part de cette répétition.
On connaît des personnes chez qui toute relation humaine a la même issue. Des bienfaiteurs qui, après quelque temps, sont quittés dans le ressentiment par chacun de leurs protégés, si différent que ceci puisse être par ailleurs, et auquel il semble donc dévolu de vider la coupe amère de l'ingratitude. Des hommes chez qui toute amitié a pour issue que l'ami les trahit. D'autres qui, répétant cela un nombre incalculable de fois dans leur vie, élèvent une personne au rang de grande autorité pour eux-mêmes, ou aussi pour le public, et qui renversent eux-mêmes cette autorité, après un temps donné, pour la remplacer par une autre. Des amoureux chez qui tout rapport tendre à la femme passe par les mêmes phases et conduit à la même fin, etc. Nous ne nous étonnons guère de cet éternel retour du même lorsqu'il s'agit d'un comportement actif de l'intéressé et que nous découvrons dans son être le trait de caractère, toujours semblable à lui-même, qui ne peut que se manifester dans la répétition des mêmes expériences vécues. Nous sommes bien plus fortement impressionnés par ces cas où la personne semble vivre passivement quelque chose sur quoi il ne lui revient aucune influence, alors que pourtant elle ne fait que revivre toujours la répétition du même destin.
On entend ici dans la voix de Cyril Baer un texte de Sigmund Freud, justement, on est en 1920, au-delà du principe de plaisir, c'est le texte dont est tiré cet extrait. Il y a peut-être deux moments du début pour l'arrivée de la répétition dans la théorie psychanalytique, à la fois 1914 avec le texte « Remémoration, répétition et perlaboration » et avec ce texte-là, au-delà du principe de plaisir. Ici, dans l'extrait, sont distinguées deux répétitions, une sorte de répétition active dont Freud dit que finalement on ne s'étonne pas dans la mesure où ça fait office de trait de caractère, un éternel retour du même, et une répétition qui serait passive et dont là il s'agirait de s'étonner parce que le patient serait agi d'une certaine manière, par une répétition. En quoi est-ce qu'il, finalement, il fait un pas, Freud, en passant de ce côté-là passif ?
Je ne sais pas si c'est une répétition passive, c'est une répétition en tout cas inconsciente, on peut dire. C'est-à-dire effectivement qui échappe totalement à celui qui en est affecté, c'est-à-dire nous tous, d'une certaine manière, puisque dès lors que nous parlons, nous sommes affectés par cette répétition. Nous allons voir un peu quelle définition on peut lui donner, mais c'est ça finalement que Freud met au jour, au-delà des symptômes, puisque lui-même, comme je le dis tout à l'heure, repère très tôt dans ses échanges avec Breuer à propos des hystériques, finalement la valeur ou la portée de la réminiscence dans le symptôme hystérique. C'est-à-dire, il a l'idée qu'effectivement, en revenant aux sources de ce qui a déclenché le symptôme, on trouve effectivement quelque chose dont peut se souvenir le sujet hystérique, à condition effectivement de le mettre, de lui permettre cette élaboration. Et donc, ce que Freud découvre à ce moment-là, c'est effectivement le fait que la recherche du plaisir n'est pas effectivement le seul objectif, qui a un au-delà, qui est un au-delà, j'allais dire, qui est destructeur, qui est un au-delà destructeur, au sens où effectivement la destinée humaine, on peut dire, et Freud en savait quelque chose dans ces années de la guerre de 14, la destinée humaine est soumise à quelque chose qui est foncièrement mortel. Et que donc, dans cette répétition, il y a quelque chose, effectivement, qui à la fois cherche à maintenir une certaine homéostase du plaisir, mais qui en même temps est destructeur pour le sujet lui-même.
Si on essaie de trouver des applications plus concrètes à ce qu'on essaie de dire là, dans un premier temps, on pense la répétition comme allant dans le sens du principe de plaisir. C'est-à-dire, on pense qu'un acte va se répéter car, entre guillemets, il nous fait du bien, ou il nous veut du bien, ou nous voulons du bien, mm-hmm, en répétant cet acte-là. Mm-hmm. Ce que dit Freud dans « Au-delà du principe de plaisir », c'est qu'il se peut que nous et notre inconscient, nous répétions des choses dans un but mortifère.
Oui, dans un, plus exactement, l'action même de la répétition. L'action même de la répétition a une dimension destructrice pour le sujet. Je veux dire, les exemples que vous avez donnés tout à l'heure dans la lecture que vous avez fait de Freud indiquent cela. C'est-à-dire que non seulement il y a quelque chose qui se répète, qui vient satisfaire quelque chose du sujet, mais à son insu, on peut dire, ça détruit quelque chose de ses forces vives, de sa capacité à aimer, de sa capacité à échanger, de sa capacité à produire, à créer, etc.
Pour bien comprendre, qu'est-ce qui est satisfait dans le sujet, dans les exemples qui sont donnés là par Freud dans ce texte, qui dit par exemple cet homme qui entretient des amitiés systématiquement trahies, renoue des amitiés pour qu'elles soient systématiquement trahies ensuite. Qu'est-ce qui se trouve satisfait chez cet homme qui travaille ce genre d'amitié-là?
Ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est difficile de faire une généralité.
Oui, bien sûr.
Évidemment, je veux dire, pour chacun des sujets qu'on va entendre, ça sera différent. C'est ça, si vous voulez, la particularité de la pratique de la psychanalyse. C'est qu'effectivement, on ne peut pas faire une généralité de cette chose, mais voir au cas par cas ce qu'il en est, hein, pour chacun qu'on va entendre. Ça ne sera pas forcément la même chose. Pour le sujet qui foncièrement a vu son père trahi par un ami cher ou par un patron ou par, je ne sais pas, une conjoncture sociale qui a fait que le père a été déconsidéré, par exemple, ça ne sera pas la même chose que tel autre qui, au contraire, aura vu, je ne sais pas, la mère séduite par je ne sais quel autre ami de la famille, enfin bon. Ce sont des exemples qu'on pourrait donner pour expliquer, pour rendre compte de ce qui se joue et à l'insu du sujet.
Quand on parle de satisfaction, pardon, mais du coup, il faut entendre l'idée d'une coïncidence. Hier, on évoquait la situation où Ulysse se fait raconter la guerre de Troie par le poète. Et au moment où il se fait raconter, il se rend compte qu'il a difficulté à faire se rejoindre l'Ulysse de maintenant et l'Ulysse d'il y a 10 ans. Dans l'idée de satisfaction, il y aurait l'idée de pouvoir faire coïncider l'être que nous sommes avec une situation passée.
Oui, ça, c'est effectivement la conception de la répétition comme la reproduction du même. Ça, c'est ce qui, effectivement, serait l'hypothèse d'une satisfaction qui se reproduirait. Or, ça n'est pas ça qui se passe. Ça n'est pas exactement la reproduction du même. C'est, d'une certaine manière, quelque chose qui est toujours en création, cette répétition. Cette répétition n'est pas une reproduction seulement de l'événement traumatique que le sujet a pu vivre, mais quelque chose qui est élaboré sans cesse par le sujet pour pouvoir traiter cet événement traumatique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et qui donne du coup aux symptômes ou à la parole de celui qui, par exemple, fait une analyse, une dimension créatrice et la possibilité, effectivement, de déboucher sur autre chose que de simplement de retrouver le souvenir intact de ce qui s'est passé. C'est pour ça même que, d'ailleurs, le souvenir intact de ce qui s'est passé est toujours, d'une certaine manière, ou suspect ou impossible à trouver. Hein. Et que quand quelqu'un vient nous voir en disant « voilà, j'ai le souvenir de mes 6 mois, j'ai fait un rêve où, effectivement, je me souviens très bien, j'étais dans telle situation », en général, c'est tout à fait... On y voit la trace d'une reconstruction, d'une construction imaginaire qui dit quelque chose du sujet, mais qui n'est pas ce qu'il voudrait présenter, c'est-à-dire la répétition d'une scène traumatique.
Et au final, peut-être ce n'est pas là l'important. Alors, qui permet d'approcher quoi? Parce que si finalement on dissocie la répétition et la remémoration, si la répétition n'a pas pour objet de retrouver un souvenir, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a là?
De retrouver ce qui est effectivement quelque chose qui a à voir avec ce que j'ai appelé la dimension traumatique, mais qui est effectivement d'une certaine manière un trop, un quelque chose qui a été en trop, un quelque chose qui est perdu pour toujours. Et vous demandiez tout à l'heure la nature de l'objet, etc. Eh bien, ce en trop est quelque chose qui a à voir avec l'objet. Imaginons, par exemple, la situation de l'enfant avec sa mère au sein. Évidemment, il y a là quelque chose qui est une satisfaction, sans doute, on ne peut que le supposer nous autres, effectivement, nous autres adultes qui parlons, on peut supposer une satisfaction très spéciale dont on n'aura plus jamais le goût, dont on n'aura plus jamais la représentation. Et donc, ce souvenir-là, il est perdu pour toujours.
Qui n'en est pas un. Ce n'est pas vraiment un souvenir.
Ça n'est pas vraiment un souvenir. Mais effectivement, on peut en retrouver la trace à travers des tentatives de satisfaction successives avec, par exemple, ce qu'on appelle les satisfactions orales, celui qui mange tout le temps, celui qui boit tout le temps, ou celui qui a une satisfaction spéciale à ça. Il ne faut pas réduire les choses, ça n'explique pas forcément tout. Je ne cherche pas, d'ailleurs, à donner des explications parce qu'il faut vraiment le lire au cas par cas. Mais c'est une piste. Hein. Mais en tout cas, c'est une rencontre avec un trop, hein, avec ce que Lacan a appelé une jouissance. Mais la jouissance, c'est quoi? C'est un trop de satisfaction qui a été rencontré par le sujet de manière traumatique. Hein, et d'ailleurs, c'est intéressant d'évoquer ça parce que ça, c'est une dimension qu'a introduite Lacan. Effectivement, la dimension de la rencontre avec cette satisfaction que Freud avait appelée traumatique et qui est une des faces de la répétition. On peut dire que l'autre face, c'est celle qui est portée par le fait que nous parlions, par le langage. Et ça, Lacan, évidemment, en développant sa notion de l'inconscient est structuré comme un langage, nous a effectivement donné là un instrument très spécifique à ce que nous sommes des êtres parlants, ce que nous sommes des humains qui parlons et pas des animaux ordinaires. Eh bien, effectivement, il y a là, dans le langage, dans la séquence des signifiants, la suite des signifiants, quelque chose de la répétition, quelque chose qui se répète, que Lacan a mis particulièrement en évidence dans son texte sur le commentaire de Pau, là, de la lettre volée.
Hein ? Est-ce qu'on peut justement essayer d'entrer dans ce séminaire où il s'appuie sur la nouvelle d'Edgar Poe, sur la lettre volée, et où il parle de ce cycle de signifiants, qui est d'ailleurs un cycle qui est répétitif, mais dont on peut finalement presque sortir, ou en tout cas, dès lors que ce cycle vacille ou achoppe, quelque chose se passe de créatif.
Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut noter, effectivement, la dimension d'achoppement, la dimension de ce qui rate, on peut dire, dans cette succession de signifiants. Et c'est ça que Lacan a essayé de traiter, j'allais dire, avec rigueur. Moi, ce qui m'a intéressé toujours dans le travail de Lacan et dans celui de Freud, il voulait faire de la psychanalyse une science. On sait qu'il avait comme modèle, effectivement, la biologie et qu'il a voulu ramener un certain nombre de concepts de la psychanalyse à la biologie. Lacan, lui, n'avait pas cette référence, j'allais dire, mythique à la biologie. Il ne voulait pas faire de la psychanalyse une science comme l'est la biologie, dans la mesure où, effectivement, d'une certaine manière, il avait l'idée que c'était vain de vouloir le démontrer ainsi. Mais j'ai toujours été frappé par la raison qu'il a voulu introduire dans la psychanalyse, qui fait que ça n'est pas une science simplement absconde ou simplement un discours qui serait comme ça intuitif. Hein. Il faut bien dire que le travail qu'a fait Lacan, même s'il est quelquefois difficile à lire...
Hein, je vous confirme.
Vous confirmez, mais il faut bien dire que la lecture qu'en a fait Jacques-Alain Miller nous a beaucoup aidé. Parce qu'effectivement, il nous a aidé à lire Lacan en établissant son séminaire, en établissant une temporalité dans son enseignement. Il nous a beaucoup aidé à approcher le fait que Lacan était un lecteur par excellence de Freud. Hein, et que, par exemple, on le voit autour de ce concept de répétition qui, d'ailleurs, n'est pas figé dans le séminaire 11 et subira encore des évolutions, puisque ce que Lacan essaye de traiter, c'est finalement le rapport de la répétition
et du transfert.
Et du transfert qu'il sépare, alors que Lacan les avait associés, et de la répétition et de l'inconscient. Hein. Et donc, en plus, y associant la dimension de la temporalité, et c'est pour ça que tout à l'heure, le morceau que vous avez, la lecture qui a été faite, était particulièrement pertinente.
De l'Ecclésiaste, enfin, c'est un pur hasard.
Particulièrement pertinente, puisque, effectivement, une des choses qu'introduit Lacan et qui est essentielle et à la psychanalyse et à sa pratique, c'est la dimension du temps. Et ça, c'est d'un temps qui n'est pas un temps chronologique, qui n'est pas seulement le temps de l'horloge de l'émission, mais qui est un temps logique qui permet de mieux saisir cette question aussi de la répétition. Parce qu'effectivement, pour saisir que ce dont il s'agit, ça n'est pas simplement la reproduction du même, ni la recherche, j'allais dire, dans une démarche rétroactive de ce qui s'est passé avant, mais de la manière dont, logiquement, nous faisons avec, on peut dire, nos souvenirs, comment nous vivons avec ce dont nous nous souvenons et surtout ce dont nous ne nous souvenons pas. C'est-à-dire, effectivement, l'effort que nous faisons en analyse pour formaliser à travers les formations de l'inconscient, à travers les souvenirs, les rêves, etc., pour essayer de formaliser ce sujet tel qu'il a vécu et tel qu'il souffre éventuellement par ses symptômes en analyse, eh bien, cette temporalité est essentielle. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans la pratique elle-même, si vous voulez, on a souvent critiqué la durée des cures. Hein. Mais effectivement, d'une certaine manière, il faut savoir attendre quand on est analyste. Il faut savoir, y a un temps où cette répétition doit pouvoir se déplier, se déployer. Parce que si on ne la laisse pas se déployer, alors effectivement, on ne la voit pas venir. Hein.
Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Et voilà que je te reviens.
Jean-Daniel Mattei, on a terminé par la question de si on ne laisse pas la répétition advenir, on ne voit pas qu'elle arrive. Et puisque l'on parlait de Lacan et de la durée, de l'importance de la durée, peut-être il faut parler de la durée des séances et de la façon dont Lacan les pense et les organise.
Oui, donc effectivement, on a souvent parlé de la durée des cures, mais comme je vous le disais, elle est liée effectivement au temps nécessaire au déploiement des effets de la répétition. L'autre élément, c'est effectivement la durée des séances que Lacan a voulu variable, c'est-à-dire plutôt que d'instaurer, que de rester à un standard de durée des séances comme les post-freudiens l'avaient installé, comme un standard, c'est-à-dire un standard extrêmement rigide, un standard qui a d'ailleurs un peu varié, qui est aujourd'hui considéré comme autour de 45 minutes, mais qui se joue, la fin de la séance se joue à la pendule, si je puis dire. Eh bien, Lacan a introduit une autre dimension qui est effectivement le fait que la séance soit de durée variable, c'est-à-dire que la séance peut être très courte ou plus longue en fonction de ce que nous avons à dire, de ce que nous disons, si nous sommes analysants, ce que nous avons à dire pendant la séance. Et ça, c'est une chose très très importante parce que c'est quelque chose qui touche aussi aux deux dimensions de la répétition, c'est-à-dire à la fois la chaîne signifiante, la chaîne parlée à se dire, mais si elle se dit trop, j'allais dire du côté du transfert, eh bien,
si elle se répète,
c'est à la fois l'inconscient qui se ferme. C'est ça qui est particulier dans cette pulsation singulière qui effectivement fait que on peut dire que le transfert correspondrait à une fermeture de l'inconscient, alors même que la disjonction, si on veut que se produisent les effets de répétition, la disjonction du transfert et de l'inconscient suppose, pour barrer les effets moïques, on peut dire, de résistance à l'inconscient, eh bien, le fait que l'analyste, par son intervention, par son acte, vienne interrompre la séance, permet effectivement une relance du côté de l'inconscient et pas du transfert. C'est-à-dire, évidemment, ça barre quelque chose du transfert, puisqu'effectivement, vous êtes là, vous blablatez, comme on dit, on parle à l'infini et on aime bien parler, même à certains moments dans sa cure, pas toujours, mais à certains moments, on aime bien parler. Eh bien, effectivement, l'analyste, en interrompant, coupe quelque chose de cette satisfaction.
Et ouvre, c'est-à-dire que...
Et ouvre, à ce moment-là, pour la séance suivante, à quelque chose d'autre, qui est une interrogation sur, effectivement, le rapport que nous entretenons, comme sujet analysant, à l'inconscient ou à la répétition.
Quand ce cycle, qui est un cycle de paroles, c'est en fait très paradoxal et très ambigu, si je vous suis, parce qu'en même temps, si je comprends bien, on a besoin de la répétition pour que s'installe une possibilité de compréhension. Mmh. En même temps, si cette répétition s'installe trop longtemps, la possibilité de la compréhension disparaît totalement. Et donc, il faut que ce soit il faut que l'analyste brise le cycle de répétition pour que s'ouvre quelque chose.
Oui, mais vous voyez, là, déjà, nous sommes dans une difficulté, parce que la répétition telle que vous l'utilisez là n'est plus tout à fait la répétition inconsciente. C'est la répétition
langagière,
la répétition du symptôme, la répétition des séances, etc. Et donc, pour viser quelque chose de ce qu'a été la répétition inconsciente, eh bien, il faut un dispositif qui ne soit pas simplement un dispositif. L'interprétation, j'allais dire, ne suffit pas d'une certaine manière. Elle est nécessaire, elle est indispensable, mais elle ne suffit pas toujours. Et l'intervention de l'analyste, à certains moments, ne serait-ce que par cette scansion singulière qu'est la fin des séances, eh bien, est une manière aussi de tenter de pointer au moins, les effets de cette répétition inconsciente.
Ce que ça, ne peut pas faire le patient. Le patient ne peut pas finalement sortir de cet endroit.
Il ne peut pas tout seul. Et souvent, nous avons fait, les uns et les autres, qui avons fait des analyses, pour ceux qui en ont fait, les analystes en ont fait nécessairement une, eh bien, ceux qui ont fait une analyse savent bien qu'effectivement, s'ils vont voir un analyste, c'est d'une certaine manière, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire qu'ils sont suffisamment empêtrés ou gênés ou embarrassés dans leur existence pour effectivement aller parler ça à un analyste et pour tenter d'aller au-delà de ce qu'ils aperçoivent. Parce que finalement, quand on va voir un analyste, on a déjà une interprétation de ses symptômes. On a déjà essayé d'expliquer pourquoi ça marche mal avec les femmes ou pourquoi ça marche mal dans son travail ou pourquoi ses amitiés, comme tout à l'heure, c'était
dans le texte
rapporté
de Freud.
Dans le texte de Freud. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a là, justement, dans la manière de se confier, on suppose à l'analyste la possibilité de nous aider à aller vers cette répétition inconsciente pour tenter de gagner un peu de savoir là-dessus. Et donc, dans diminuer la force, j'allais dire, destructrice, la force symptomatique qu'elle a, hein, au point qu'à la fin de l'analyse, il reste quelque chose de ça, dans ce qu'on peut appeler des restes symptomatiques, mais qui sont du coup à portée de main ou à portée de savoir de celui qui en parle. On le voit dans ceux qui ont terminé leur analyse, dans ce que nous appelons, nous, les analystes de l'école qui ont fait la passe et qui, effectivement, peuvent témoigner de ça parce qu'effectivement, ils ont terminé ce cycle. Et à ce moment-là, ils peuvent parler de ces restes symptomatiques.
Qu'est-ce qui pourrait nous sauver de la répétition ? La réponse est simple. Et après tout, elle a été donnée. Tiens, mais ça va nous permettre de retrouver des philosophes. Qu'est-ce qui peut sauver de la répétition ? Rien, sauf la répétition. Ah, donc, il y a deux répétitions. Sûrement, il y en a mille. Entre autres, il y en a deux. Et il y aurait la répétition qui sauve. Et il y a la répétition. Quoi qui tue. Il y a la répétition qui ne fait qu'un avec la dégradation. Et il y a la répétition qui sauve de la dégradation et qui remonte la pente de la dégradation.
On entendait ici Gilles Deleuze, vous l'avez correctement entendu ? Comment ?
C'est pas Lacan ?
Non, c'est pas Lacan. C'est Gilles Deleuze. Il parle de la répétition qui sauve et d'une répétition qui tue. En quoi est-ce qu'on peut parler d'une répétition qui sauve ?
Une répétition qui sauve au sens où, effectivement, elle vient traiter quelque chose de ce qui a été pour nous une expérience qu'on ne peut dire, qui n'est pas apportée, j'allais dire, de paroles, de langage, qui n'est pas, et qui en même temps a des effets négatifs sur notre existence. Et donc, dans ce sens-là, la répétition, c'est un traitement, on peut dire, de la dimension traumatique de notre existence, qui est à l'origine de nos existences, à chacun. Traumatisme au sens où, effectivement, traumatisme de la rencontre avec la sexualité. Par exemple, le fait qu'on rencontre l'autre sexe, même très tôt, effectivement, est quelque chose d'extrêmement énigmatique pour les humains. Pour les animaux, il n'y a pas de problème, puisque leur seule perspective, c'est la reproduction. Pour les humains, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est... De ce côté-là, c'est la répétition qui sauve. Hein ?
On a comme un doute. Bon, cette semaine, nous écoutons les poèmes de Valérie Rousseau, poétesse française qui travaille aussi la traduction d'auteurs anglophones. Elle publie en 1999 le recueil « Pas revoir » aux éditions de la Table Ronde, dans lequel il est question de son père mort. Nous feuilletons ce recueil toute la semaine. Deux poèmes aujourd'hui, ils nous sont lus par la comédienne Flora Brunier. On écoute.
Du temps du moment chiardement gone away que nous étions ensemble. Plus tard, j'ai habité des villes. Et toi ? Passant à Lyon, dans ton camion, sans mon adresse de bien rangée, avec tes disques de stationnement. C'était au 8 rue Ferrandière, je t'y aurais offert un verre. Ce verre est remis à Perpète, et tous les autres, mortes fêtes. Ton fauteuil pèse autant qu'il peut son poids de choses lourdes et noires. Appuie par terre son gros derrière, son cœur aussi bien. D'être là vide que veille ton chien. Attendre les bras 20 fois où tu ne t'essuies plus les joues. Quand on entre, il est dans son coin, il s'assombrit encore. Crapaud, il exploserait dans l'eau trouble des flaques que le chien va lécher. Quand on sort, il n'a pas bougé.
Thank you.
clin d'œil que vous vouliez faire par ce morceau Jean-Daniel Mattei à l'Argentine. Pour quelle raison ?
D'abord parce que nous avons, les psychanalystes ont une tendresse particulière pour l'Argentine, au sens où la psychanalyse y est très vivante, très vivace, et que les Argentins ont joué un rôle non négligeable dans beaucoup de pays où ils sont venus, où ils se sont déplacés, et où Lacan a effectivement maintenant laissé une trace très sensible. Une des écoles de l'Association mondiale de psychanalyse, c'est la Escuela de la Orientación Lacaniana, qui est à Buenos Aires et qui est une des très grandes écoles de l'Association mondiale de psychanalyse. Voilà, donc c'est une tendresse spéciale pour mes collègues, au-delà du fait que j'ai des liens plus personnels et
avec
l'Argentine. Voilà, donc ce petit clin d'œil à la chanson, à la musique argentine.
Une autre école, c'est la New Lacanian School, et on voulait renvoyer à cet article « Transfert, répétition et réel sexuel » de Jacques-Alain Miller, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui propose une lecture du séminaire 11. On parlait de la difficulté, mais de votre bonheur à lire Lacan. Il se trouve que cet article est particulièrement éclairant et particulièrement, comme on pourrait dire, pédagogique. Et puisqu'on a signalé l'Eurofédération de psychanalyse dont vous êtes le président, on peut aussi signaler le prochain congrès qui se tiendra à Bruxelles en juillet 2015 sous le titre Victime, point d'interrogation, point d'exclamation.
Exclamation.
Merci beaucoup Jean-Daniel Mattei d'avoir été avec nous cet après-midi.
Je vous remercie.
Et d'avoir bravé la chaleur de ce studio. Pour écouter cette émission, le site France Culture vit à une température modérée. Il fonctionne parfaitement. Vous pouvez vous y abonner au podcast de l'émission qui s'appelle Pas la peine de crier, au podcast du poème du jour, à celui du Polaroid et à celui de Je déballe ma bibliothèque. Pour nous réécrire, écrire sur ce même site. Un formulaire fonctionne parfaitement sur notre page. Nous vous remercions pour vos mots qui témoignent d'une écoute fidèle, fine, exigeante, critique, belle. Aux manettes aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec de Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Anne-Laure Chanel.